On est très étonné avec joie de voir que des fois Dieu ou l'Esprit le synchronise pour nous. Et voilà. Donc je vais vous inviter à lire le psaume 42. Et juste avant ça, on va lire un autre passage dans le livre de la Genèse. Donc vous pouvez ouvrir vos Bibles aussi à Genèse au chapitre 4. Genèse chapitre 4, je lis à partir du verset 3. Au bout d'un certain temps, Caïn apporta des fruits du sol comme offrande à l'Éternel. Abel, lui aussi, apporta des premiers-nés de son petit bétail avec leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur l'offrande d'Abel. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn ni sur son offrande. Et Caïn fut très irrité. Et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn : Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ? Si tu agis bien, tu relèveras la tête. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi domines sur lui. Cependant Caïn adressa la parole à son frère Abel et comme ils étaient dans les champs, Caïn se dressa contre son frère Abel et le tua. Et maintenant, je vous lis le psaume 42, je vous le relis. Psaume 42. Au chef des chœurs, poème des fils de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit tout le temps : Où est ton Dieu ? Et voici pourtant ce dont je me souviens avec effusion de cœur. Je marchais avec la foule et je m'avançais avec elle vers la maison de Dieu au milieu des acclamations. De la reconnaissance d'une multitude en fait. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu sur moi ? Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore pour son salut. Mon Dieu, mon âme est abattue à mon sujet. C'est pourquoi je me souviens de toi depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitzéar. Un abîme appelle un autre abîme et au bruit de tes cascades, toutes tes vagues, tous tes flots sont passés sur moi. Mais le jour, l'Éternel m'accorde sa bienveillance et la nuit, son cantique m'accompagne. C'est une prière au Dieu de ma vie. Pourquoi, je dis à mon Dieu, mon roc, pourquoi m'as-tu oublié ? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi ? Mes os se brisent quand mes adversaires me déshonorent et en me disant tout le temps : Où est ton Dieu ? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu sur moi ? Attends-toi à Dieu. Car je le célébrerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Dernière toute petite lecture. Dans le premier chapitre des Chroniques, pardon, premier livre des Chroniques, mais au chapitre 9, donc 1 Chronique, chapitre 9. Verset 17. 19, pardon. Shalum, fils de Coré, fils de Ébiasaph, fils de Coré, et ses frères de la maison de son père, les Coréites, remplissaient les fonctions de gardien des seuils de la tente. Leur père avait gardé l'entrée du camp de l'Éternel. Et Phinéas, fils d'Éléazar, avait été autrefois leur conducteur. L'Éternel était avec lui. Un peu plus loin, verset 23. Eux et leurs fils étaient de garde aux portes, aux porches de la maison de l'Éternel, de la maison de la tente. Il y avait des portiers aux quatre vents, l'est, l'ouest, au nord et au sud. Leurs frères qui demeuraient dans leur village devaient de temps à autre venir auprès d'eux pendant 7 jours, car ces quatre portiers supérieurs, les Lévites, étaient toujours responsables. Ils avaient encore la surveillance des chambres et des trésors de la maison de Dieu. Ils passaient la nuit dans les environs de la maison de Dieu, car ils en avaient la garde et ainsi que le devoir de l'ouvrir chaque matin. Je m'arrête là. Ce psaume a été écrit par un fils de Corée, un Coréite, qui a la garde des portes de la maison de Dieu. Pour une raison qu'on ignore, il ne peut plus y aller. Il ne peut plus aller au temple. Il ne peut plus vivre cette proximité, cette communion avec son peuple et avec son Dieu particulièrement. Et ça lui crée un trou béant dans le cœur. Et il le dit. « Comme une biche soupire après un courant d'eau, mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Elle a soif de... Alors dans le texte, c'est Yahweh, Yahvé. Et El Chai, le Dieu vivant, le Dieu de la vie. J'ai soif du Dieu de la vie. Et ce qui lui tarde, quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ? Et pareil, on ne l'a pas vraiment dans certaines de nos traductions, mais si vous, dans le verset 12, il est mon salut et mon Dieu. En fait, peut-être dans la Darby, vous avez une autre traduction, mais... C'est le Dieu de ma face. Il veut être face à Dieu et il appelle ce Dieu le Dieu de ma face. C'est-à-dire que ce qu'il cherche, c'est un face-à-face. Il veut cette relation face-à-face avec Dieu. C'est ça qui lui manque. Alors ce psalmiste souffre. Il souffre. Et un peu plus loin dans le psaume, il dit « Une abîme appelle une autre abîme et au bruit de tes cascades, de tes cataractes, donc on imagine des immenses cascades d'eau, toutes tes vagues et tous tes flots sont passés sur moi. » Il dit que Dieu est responsable de ce qu'il éprouve maintenant. Il dit que ce trou béant, cette situation peut-être, cette rupture de communion, je ne sais pas, il s'est peut-être attrapé une maladie qui le rendait impur et qui l'a obligé de s'éloigner du temple. Peut-être que des ennemis, des adversaires l'ont calomnié et qu'il a eu une sale réputation et qu'il s'est fait chasser du temple. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Et dans ce psaume, il dit à Dieu, « Tous tes flots sont passés sur moi, c'est quelque part. » C'est ta faute. À un degré ou à un autre, tu es responsable. Job aura dit la même chose à Dieu. Et Dieu a regardé Job et dit « Ah non, c'est pas moi. » Pas du tout. Dieu n'a jamais reproché à Job que Job lui ait dit « C'est ta faute. C'est tes flèches qui me transpercent, » disait Job. Et là, ce fils de Corée dit, ce sont tes flots, tes vagues qui me fauchent. Alors ce psaume a un rythme. Il commence par soupirer après Dieu, à dire sa douleur, à se consoler avec un souvenir heureux, Et il dit sa douleur, mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, avec ses ennemis qui disent, alors il est où ton Dieu? Et lui, il souffre parce que il s'attend à Dieu, et en même temps, rien ne change. Ça crée une tension en lui. Il aimerait bien pouvoir prouver à ses adversaires que son Dieu est vivant. Mais là, ça ne se produit pas. Alors il se souvient de ses bons moments. Et donc c'était un coréite, donc il ouvrait les portes de la maison le matin. On vient de le lire en chronique. Donc le peuple se rassemblait. Il y avait beaucoup de juifs qui voyageaient pour aller jusqu'au temple, au moins une fois par an, etc. Et en fait, il y avait tout le temps une foule qui attendait, dès le matin, de pouvoir entrer dans les parvis du tabernacle. Parce que le texte qu'on a lu en chronique, le temple n'était pas encore construit. Et lui, une de ses tâches, c'était d'ouvrir les portes le matin. Donc vous imaginez, il ouvre les portes, et là, il y a une foule qui veut rentrer dans le temple pour adorer Dieu. C'est ça qu'il évoque. Voici pourtant ce dont je me souviens avec effusion de cœur. Je marchais avec la foule et je m'avançais avec elle vers la maison de Dieu au milieu des acclamations, de la reconnaissance et de la multitude en fait. Et où est-ce qu'il est aujourd'hui? Il est au pied de l'Hermon, au nord du pays. L'Hermon, ce sont les sources du Jourdain. Qu'est-ce qu'il fiche là-bas? J'en sais rien. Il est loin du temple, presque aussi loin que l'on peut l'être tout en habitant encore en Israël. Et pourtant, il y a quelque chose dans tout ça qui l'empêche. Il lui fait voir encore cette présence de Dieu. Autant il dit à l'Éternel, toutes tes vagues sont passées sur moi et tu m'as vraiment laminé. Autant il dit, le jour, l'Éternel m'accorde sa bienveillance et la nuit, son cantique, ma campagne. Ce psaume m'a parlé quand je suis allé visiter Mathis et Céline parce que il y a un trou béant dans cette vie. Cette maladie, cette hospitalisation qui dure 5 mois. Mais le jour, l'Éternel m'accorde sa bienveillance et la nuit, son cantique m'accompagne. Je pense que Céline et Mathis y pourraient le dire dans le sens où tout autour de ce trou, il y a plein de fleurs de grâce de Dieu qui poussent. C'est pas du tout ce qu'on voudrait que Dieu fasse. On voudrait qu'il s'occupe du trou. On ne comprend pas pourquoi ce trou demeure. Et pourtant, on ne peut que voir toutes les fleurs qui poussent autour. Et je crois que ce fils de Corée, il vit la même chose. Qu'est-ce que l'Éternel est en train de faire là-dedans ? Je ne sais pas. Pourquoi Mathis est en train de passer par ce par quoi il passe? Alors pour ceux qui ne savent pas, Mathis est un jeune garçon qui fait partie de l'église. Ça fait 5 mois qu'il est alité, hospitalisé, qu'il a subi presque une dizaine d'interventions chirurgicales sur son corps. Pourquoi? Pourquoi faire? J'en sais rien. Et ce psaume correspond bien à cette situation. Mis à l'écart, écarté de tous, isolé, je ne peux plus être en communion, je ne peux plus être avec ma famille, je ne peux plus être avec mon peuple, je ne peux plus être avec mon église. Il y a ce trou béant dans ma vie. Pourtant, je vois tes petites fleurs autour, mais ce n'est pas ce que je veux que tu fasses. Moi, j'ai soif de plus que ça. Mais étonnamment, ce psalmiste, il accepte ce que Dieu lui offre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Mais c'est le refrain. C'est le refrain. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu sur moi? Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore pour son salut. Quand on a mal, au début de sa carrière, mon frère était kiné, et il m'expliquait ça. Quand on a mal, on protège sa douleur. Et le corps protège ses douleurs. Et quand il protège ses douleurs, il se replie, il s'enroule autour de sa douleur. Et dans notre mental, dans notre psychique, on va faire pareil, on va s'enrouler aussi autour de nos douleurs, de nos blessures de cœur, pour les protéger, évidemment. Le problème, c'est quand on reste trop longtemps enroulé, on se replie sur soi. Et ces petites fleurs disent une chose, ou plutôt elles interdisent de dire une chose. Elles interdisent de dire « tu n'es pas là ». Alors, on a discuté avec Mathis, est-ce qu'on a le droit d'être en colère contre Dieu ? Parce que je vois bien que tu es là, mais tu laisses mon trou béant. Presque, on préférerait qu'il ne soit pas là. Non ? Et ce psalmiste voit bien que Dieu est là, et il se sent en train de s'enrouler autour de sa douleur. Mon âme gémit au-dedans de moi, elle gémit à propos de moi, elle soupire au-dedans de moi, mes os se brisent, mes ennemis me raillent, je veux faire la bulle. Et en fait, il y a ce Dieu qui est là et qui me voit. Et je ne peux pas dire qu'il m'abandonne. Mais pourquoi il me laisse là-dedans? J'ai lu ce texte dans la Genèse parce que je pense que Caïn a vécu la même chose. Il offre un sacrifice à Dieu. Abel offre un sacrifice à Dieu. Les deux apportent une offrande devant l'Éternel et Dieu regarde favorablement le sacrifice d'Abel et il ne regarde pas le sacrifice de Caïn. Et Caïn, il a la mort et il ne sait pas pourquoi Dieu a refusé son sacrifice. Et son visage est abattu, comme l'âme du psalmiste. Et qu'est-ce que Dieu vient faire? Il vient faire les petites fleurs qui poussent autour du trou. Il vient voir Caïn et il lui dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ton visage est-il abattu? Relève la tête, sinon tu vas te faire bouffer. Et le psalmiste choisit de relever la tête. Ok, je vais faire le face-à-face avec toi. On va tout se dire. Et Caïn se tait. Il ne dit rien à Dieu. Il va voir son frère et il le tue. Le psaume 42, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de bonne résolution. Comme dans certains psaumes où David finit par dire « Tu m'as délivré, tu m'as répondu » ou « Ça y est, je suis relevé ». Il se termine de manière suspendue. « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu sur moi? Attends-toi à Dieu car je le célébrerai encore. Il est mon Dieu et mon salut. » C'est une résolution, c'est une décision de la part du psalmiste de « Ok, je vais me relever, je vais me réouvrir en ayant ce face-à-face avec Dieu. Je ne vais pas me replier sur moi. Je ne vais pas m'effondrer sur moi. Ça ne veut pas dire qu'il est d'accord avec ce qui lui passe. Ça ne veut pas dire qu'il est en paix avec Dieu. J'expliquais à Mathis, quand Camille et moi, on dépose nos enfants chez les grands-parents, quand on les récupère, on a droit à des... Ils ont été formidables, parfaits, pas eu une dispute. Et on les récupère et on commence à discuter et il ne se passe pas 5 minutes et boum, ça pète. Et qu'est-ce que les grands-parents disent ? Ben, je comprends pas. Avec moi, il fait pas ça. Et je raconte ça à Mathis. Et je lui dis, est-ce que tu sais pourquoi ? Pourquoi il pète des câbles avec nous et pas avec n'importe qui d'autre ? Il me dit non. Je lui dis, c'est parce que ils ont pas peur de nous perdre. Alors ils peuvent être comme ils veulent. Je lui ai dit, Dieu veut la même relation avec toi. Il veut que tu n'aies pas peur de le perdre. Alors tu peux être comme tu veux avec lui. Tu peux tout lui dire, juste perds pas le face à face. Et oui, il te saoule à faire pousser ses fleurs autour de ton trou bléant, de ta plaie béante. Il est là à dire qu'il est là, pas comme tu veux. Et c'est pénible, mais il est là. Et dis-lui tout, lâche tout, parce que tu pourras pas le faire partir. Tu ne pourras pas le faire partir. Parce que celui qui a été abandonné, c'est Christ. Et toi, tu ne pourras pas être abandonné. Alors, il est pénible, ce Dieu. Il est sauvage. Il n'est pas domestique. Il ne fait pas ce qu'on veut quand on veut. Mais c'est ça le problème d'avoir un Dieu vivant. Et pas une statue. D'avoir un Dieu qui fait ce qu'il veut. Et pas un distributeur. Alors je ne sais pas par quoi vous passez, vous. Je ne sais pas si vous aussi vous avez des trous dans votre vie. Vous ne comprenez pas pourquoi Dieu vous aide sur n'importe quoi d'autre que ce problème-là qui demeure, et que vous êtes à l'écart peut-être de quelque chose. Et peut-être vous ragez comme ce psalmiste, parce que vous voyez bien qu'il est vivant, vous voyez bien qu'il est là. Vous ne pouvez pas nier cette évidence-là. Mais pétard, pourquoi est-ce qu'il n'intervient pas là où je l'attends le plus ? Persévérez. Mais dans votre persévérance, ne lui cachez rien. Ne lui cachez rien. Ceux d'entre vous qui êtes en couple, ceux d'entre vous qui avez des parents, des enfants, combien de fois vous vous êtes disputés ? Combien de fois vous vous êtes trouvés pas d'accord sur un sujet ? Est-ce que ça veut dire que vous avez voulu changer de famille, changer de conjoint, à cause d'un sujet ? Bon, celui-là est très grave. Mais j'ai dit à Mathis, t'es pas d'accord avec Dieu. T'es en colère contre lui. Ça ne veut pas dire que tu veux changer de Dieu. C'est bien parce que tu l'aimes et que tu veux le garder comme Dieu que ça t'énerve qu'il n'intervienne pas dans ta vie comme tu veux. Et moi non plus, je ne suis pas d'accord avec ce que fait Dieu. Mais je peux être avec lui comme je veux. Lui dire tout. Et rien lui cacher. Et pas construire des œillères pour que ma foi ou ce que je crois ne soit pas ébranlé. Bien sûr que ma foi est ébranlée par ce qui se passe. Bien sûr qu'elle est étirée, elle est au maximum de sa résistance. Et je ne vais pas me mentir pour réduire la tension. Je ne vais pas inventer des fausses excuses. Ah, mais peut-être c'est parce que nous, on ne prie pas assez. Ah, mais c'est peut-être parce que ceci ou cela. On peut inventer des excuses pour réduire la tension. Mais lui, qu'est-ce qu'il écrit ? Tous tes flots sont passés sur moi. Et Dieu, il a dit, oui, tiens, vas-y. Fils de Corée, tu vas écrire ce psaume et tu vas le mettre dans ma collection de cantiques qui me rendent gloire. Vous avez le droit de tout lui dire. Vous avez plein de psaumes qui le font à votre place si vous ne trouvez pas les mots. Et ce qu'il y a de beau dans tout ça, c'est quoi? C'est cette relation que Dieu veut avec vous, avec moi. Comme un enfant qui pète des câbles avec ses parents, mais pas quand il est gardé chez les autres, parce qu'il n'a pas peur que ses parents l'abandonnent. Vous aussi, je vous le dis, n'ayez jamais peur que Dieu vous abandonne, quoi que vous lui disiez. Le problème, c'est pas quand on dit, entre guillemets, ces quatre vérités à Dieu. Il faut y aller. Le problème, c'est quand on fait comme Cain et qu'on ne lui dit rien. Qu'on se replie sur soi. On commence par bouder. Après, on se focalise sur sa douleur et on s'invente une justice et on finit par asservir les autres à sa souffrance. Pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis tu sur moi? Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore. Il est mon salut et mon Dieu.